Henry Folk, L'âge de plomb. Chapitre 11. Une idylle radiologique. Il serait toutefois exagéré de prétendre que tout le monde fut malheureux. D'abord, les enrichis du fléau, les profiteurs de la lèpre, comme imprimaient certains journaux, menaient presque tous une vie délirante de fêtes, de bals et d'orgies. Ensuite, il y avait les philosophes, pour qui cette calamité formait un précieux sujet de méditation. Les croyants, à qui elle apparaissait comme une épreuve envoyée par le ciel et nécessaire au salut. Les hommes de science de toutes catégories qui pondait, selon l'expression technique, des communications en tout genre. Et il y avait aussi les amoureux, car l'amour, invincible au combat, triomphe de toutes les forces ennemies. Parmi ceux-ci, florissaient, dans la détresse générale, Miss Sweeney et M. Galfo. Cette ravissante américaine s'était sentie pénétrée, peut-être s'en souvient-on, d'un goût immédiat et immodéré pour les recherches radiophysiques. Tout à ses spéculations de bourse, Barclay lui laissait une complète liberté selon la mode transatlantique. Winnie fréquentait donc assidûment le laboratoire du jeune homme. Absolument dégoûtée des belles lettres, elle avait pris une inscription d'auditrice bénévole au secrétariat de la faculté des sciences, acheter une pile déconcertante de traités radiologiques et demeurait longtemps dans le scientific home selon son exquise expression. Là, elle examinait les appareils, admirait tout et ne comprenait rien. Galfo la trouvait adorable. Au surplus, elle avec lui, la jeune fille risquait peu, du point de vue de l'honneur d'abord. Galfo était trop honnête garçon pour entamer la moindre prévôté à l'égard d'une femme, même jolie, sans un express encouragement. Cette éventualité se réalisa d'ailleurs, du point de vue de la santé ensuite. Galfo savait protéger au mieux son laboratoire et son appartement. Barclay lui avait fourni un impérieux superflu de plomb. C'était bien le moins qu'il lui dût. Ainsi, l'idylle se noua entre le professeur et l'élève parmi des instruments de science dont elle demandait les noms avec un sourire craintif et curieux. « Oh, mon cher maître, cher ami, cette jolie petite appareil de cuivre qui ressemble à un pied pour photographie, qu'est-ce que c'est, voulez-vous me dire ?»« Un spectroscope, Winnie. »« Pourquoi c'est faire, dites-moi ?»« Pour examiner le spectre solaire. »« Oh, j'ai peur !»« Rassurez-vous, on entend par spectre une belle image colorée de toutes les teintes de l'arc-en-ciel ou de la bulle de savon. »« Alors, je peux regarder ?» Bien sûr, placez votre œil devant cet objectif. La tige verticale est tournée vers le soleil. Voyez-vous les raies du spectre? Oh, que c'est joli! Le ruban d'iris et les rayons Galfo, je peux les voir? Certainement. Tenez, sur la gauche, ces radiations d'un rouge éclatant, comme si cette teinte voulait évoquer les brûlures profondes qu'il détermine. Oh, effrayant! Montrez-moi autre chose encore. Voici un spectrographe. Les raies du spectre, point ne suffit de les voir, il faut en conserver la trace. Mon spectrographe les mesure, et par l'adaptation d'un appareil photographique, les fixe, en noir et en couleur. Regardez cette collection d'épreuves. Oh, merveilleux! Oh, cher Stéphane, que j'aime la radiophysique! Montrez-moi encore. Ça, qu'est-ce que c'est? les doigts enlacés et parfois les bras, il cheminait tendrement sur le plancher caoutchouté du laboratoire. Ça, Winnie, c'est le radioscléromètre qui mesure la pénétration des rayons radioactifs. Leur force pénétrante s'apprécie automatiquement par la lecture du cadran gradué devant laquelle se meut cette petite aiguille. Et voici l'électromètre de Wilson.
Notre président?
Non, mais aussi un grand homme. L'électromètre est destiné à enregistrer les radiations. Une feuille d'or s'écarte ou se rapproche de ce disque en cuivre poli.
Oh, splendide! Et tout ça, il fonctionne.
En période normale, à merveille. Actuellement, mes appareils valent zéro dès qu'ils reçoivent la lumière solaire. Aussi sont-ils tous protégés. Et ceci? C'est le polaristroboscope de Fitzgerald. Et voici l'ampoule Coolidge, l'impératrice des ampoules, qui permet de produire une somme de radiation X irréalisée jusqu'à ce jour. Le génie américain, vous le constatez, a fait faire d'étonnants progrès à la radiophysique.
Oh, que vous êtes gentil de me dire cela, cher Stéphane.
Cher Winnie. Un baiser joignit leurs lèvres. Et si l'attention, l'attraction de leurs âmes eût pu être enregistrée en unité de force électrique, sans doute aurait-elle affolé l'aiguille de l'électrodynamomètre de Thomson. Ils se firent donc le serment mutuel de s'unir par les liens du mariage. Et Winnie combina aussitôt l'aménagement d'un nid plombé où se blottirait amoureusement leur félicité protégée. Une fissure au tableau pourtant. Lorsque Winnie exposa ses intentions à Bartlett, celui-ci la reçut comme il aurait fait un placier en machine à coudre. « Tu n'épouseras pas ce savant sans surface qui vaut tout juste mes 5 000 $, à supposer qu'il les ait encore. »
Il vaut tout l'argent qu'il t'a fait gagner, papa.
Tu parles sentiment, ma fille. Et moi, affaire, ce n'est pas la même langue.
Ma langue est celle du cœur, papa. Stéphane n'a même plus tes 5 000 $, car il les a dépensés en bonbons et en gâteaux pour moi. C'est un galant homme.
Un complet imbécile. Il ne s'enrichira jamais. Avoir traité sans s'assurer une part de mes bénéfices. C'est oublier le tarif. La fille du roi du plomb n'épousera pas le prince des crotons.
Elle l'épousera.
Non, par Jove, j'ai pourtant un parti magnifique, le fils du roi de la gelée de groseille.
Qu'il se noie dans ses peaux, s'écria Winnie. Je ne veux pas de ta gelée. Je veux mon galfaud.
Lui têtu, elle obstinée, l'accord était problématique. Puisqu'il en est ainsi, conclut-il, nous regagnerons Philadelphie par le prochain paquebot. Chapitre 12. Un dîner d'affaires. Assis dans le salon d'un somptueux hôtel, Miss Winnie, rêveuse, fumait une cigarette. Bartlett lisait les journaux du soir. Il n'était que 2 heures après-midi, mais comme la TSF ne fonctionnait pas de jour, les grands quotidiens du soir avaient avancé leurs heures de tirage. Voici, dit-il à sa fille, un article du Temps bien intéressant intitulé « Et les planètes ?» Il ressort des observations astronomiques, écrit le rédacteur, que la radioactivité solaire ne s'exerce pas seulement sur la Terre. C'est ainsi que Mars a changé de couleur. De rouge qu'il était, il est devenu vert. La végétation qui couvre sa surface
et qui a une teinte ponceau carminée, subit sans doute l'action des radiations gamma, car elle s'est fanée, flétrie, passant au verdâtre le plus lamentable. Tu liras cela, toi qui es devenu scientiste. Et il émit un petit rire qui dut sembler désagréable à sa fille, car elle lui tourna le dos en rejetant vigoureusement la fumée de sa cigarette. « Ah ah !» poursuivit Barclay, « les cours de la Winnie montent encore. Ton nom a porté bonheur à cette mine. Je vais ordonner de nouvelles prospections. » La jeune fille, sans répondre, regardait à travers les vitres défiler un cortège de noces populaires. Les landaus traditionnels roulaient lentement, leurs maigres chevaux peinant sous leur caparaçon plombé. Comme il faisait un temps magnifique, les capotes étaient ouvertes, et vu d'en haut, toute la noce, le marié, la mariée, parents, invités, ressemblait à une série de grosses cloches placées par deux sur les banquettes. L'épousée seule se signalait par le voile de mousseline classique recouvrant son chapeau de plomb. Les mains des conjoints s'unissaient, noires, gantées. La jeune américaine soupira et se tournant vers son père. « Restez-vous toujours brutalement inflexible ?»« C'est merveilleux, répondit-il. Je ne connais plus ma fortune. » Le gouvernement annonce la taxation. Il l'annoncera jusqu'à la fin du monde. C'est parfait. Quoi ? Doré sur tranche, un chasseur de l'hôtel apportait un pli sur un plateau d'argent. « Pour vous, Winnie, dit Barclay, un pneumatique. » Elle ouvrit et lut. « Chère âme chérie, je viens de faire une constatation immense. Pouvez-vous venir jusqu'au laboratoire? Mon cousin Parmusif, qui est avec moi, jure que notre bonheur est certain. Accourez vite, je vous en supplie. » Elle sonna, le chasseur reparut. Mon auto. Le chasseur s'inclina, disparut. Vous sortez, Winnie? Oui. Nous dînons à 8 heures, ne l'oubliez pas. Nous allons à l'opéra. Maintenant, je me rends au cercle. Il sonna. Le chasseur reparut. Mon auto. Le chasseur s'inclina, disparut. 20 minutes plus tard, Winnie écoutait, dans un ravissement ému, les révélations de Galfaud. Elle lui sauta au cou. J'avais pressenti une bonne chose, chère chérie. Vous allez dîner avec nous, Monsieur Parmusif aussi, et à nous trois, nous, comment dit-on, nous posséderons papa. La situation, opina Parmusif, est délicate à mon égard. Votre père ne promettra rien sans explication motivée. Mais les explications fournies, voudra-t-il encore promettre? Miss Winnie répondit avec hauteur, papa a des défauts. Beaucoup, mais il a la première de toutes les qualités. Il est loyal. C'est aussi, répondit galamment Parmusif, la première des habiletés. À présent, dit Winnie, je vais téléphoner à mon père que je lui amène 2 invités. Autour d'une table illuminée, fleurie, 3 convives en habit et la charmante Winnie consommait un repas choisi. Bien que la volaille fût devenue d'une cherté excessive, d'admirables poulardes bombaient leur tendre chair, surabondamment truffée. Winnie commença l'attaque avec vigueur et simplicité. « Papa, ma fille, que direz-vous de cette nouvelle ?» Monsieur Galfaud est capable de vous faire gagner subitement des millions ou bien de vous appauvrir si fort qu'on pourrait presque dire ruiné. Galfaud rougit.
Parmussive sourit gracieusement. Barclay, les poings sur la table, sourcilla à peine, solide, et répondit. « C'est assurément une nouvelle. » « Eh bien, dans ce cas démontré, j'offre à M. Galfour... »«
Votre fille, papa ?»«
Non. » »« Alors il se taira et vous serez ruiné. »«
Vous vous tairez, my lovely. » »«
Yes, » répondit Galfour en toussant d'émotion. « Monsieur, » reprit Parmussif, « puis-je me permettre de vous signaler que mon cousin Galfour est d'excellente famille ?» Que malgré sa jeunesse, il est célèbre. Que sa science, un jour...
Monsieur Parmussif, interrompit Winnie, il ne faut pas développer le sentiment avec papa. Dites plutôt les termes d'une entente.
Eh bien, reprit Parmussif, sans se montrer décontenancé, car l'interruption était concertée, je propose à monsieur votre père la formule suivante. Si M. Galfour me fait réaliser un bénéfice de tant de dollars, je m'engage à lui donner ma fille. Et, s'adressant à Barclay, ce bénéfice équivaudrait, je pense, à l'apport de même somme fait par mon cousin.
Quel bénéfice ? Demanda Barclay. J'exige 1 million de dollars minimum.
Winnie haussa les épaules. « Faites le papier pour 2 millions, papa. Vous voyez que nous ne craignons rien. J'ajoute que, si vous refusez, le cher Galfour se taira pour vous, mais parlera pour les autres. Et les autres vous posséderont. Voilà. »«
Soit, » déclara Barclay, « 2 millions. J'écoute. Révélez. »
« Eh bien, monsieur, » déclara Galfour, d'une voix qu'il tâchait de rendre assurée, « Vendez immédiatement tout votre plomb. Demain, il baissera de valeur. Après-demain, davantage encore. Et dans 8 jours, il ne vaudra plus rien.
Pourquoi ?
Parce que vos approvisionnements vont devenir inutiles. Parce que le soleil cruel redevient notre bon soleil. Il retourne progressivement à son activité normale.
Comment ? Expliquez.
Voici. Après avoir constaté une perturbation croissante de mes appareils de mesure, après avoir suivi cette action jusqu'à son maximum, j'observais depuis quelques jours que la courbe, au lieu de poursuivre son ascension, s'infléchissait avec rapidité. Elle tendait à devenir parallèle à l'axe des temps sur les diagrammes où j'inscris heure par heure le phénomène. Bien plus, ce matin même, mes mesures m'ont montré que la décroissance de la radiation pénétrante est des plus nettes. La courbe baisse lentement dans la direction de l'abscisse.
Galfour se tut.
L'Américain le regardait. Après un moment de réflexion, il répondit « Je ne comprends rien. Mais ce ne sont pas vos explications, ce sont les faits qui importent. » Il écrivit sur un carnet des chiffres, puis se levant, serra la main de Galfour en disant « Prenez ma fille, je vais au téléphone. »
Chapitre 13. Épilogue.
Le cauchemar qui pesait sur le monde s'évanouissait peu à peu. Un mois après le dîner qui avait donné à Barclay l'occasion de doubler son immense fortune et à une foule de spéculateurs celle de perdre toute la leur, le soleil, se conformant à la prédiction de Galfour, avait perdu toute radioactivité et le plomb presque toute valeur. Ce triste métal mis longtemps à regagner son cours normal. Il serait toutefois erroné de supposer que les effets du fléau cessèrent en même temps que disparaissait la radioactivité de l'astre. L'influence de la néfaste irradiation persista chez les organismes atteints, ainsi qu'il avait été jadis fréquemment observé chez les radiologistes professionnels ulcérés par les rayons X dans leurs travaux de laboratoire. Un grand nombre d'êtres humains ne connut plus jusqu'à la mort qu'une vie amoindrie, souffreteuse, compliquée d'accidents tels que la dyspepsie ou la perte partielle de la vision. La leucopénie fut la règle chez tous ceux qui n'avaient pu se protéger suffisamment. On les reconnaissait à leur pâleur de cire. En somme, il est incontestable que toute une génération fut sacrifiée à des degrés divers. Mais qu'est-ce qu'une génération à travers la suite des siècles? Une ride qui naît, se propage et meurt sur la surface infinie et mouvante du temps. De tous les héros de la relation très fidèle qui précède, seul M. Saumêtre, l'élégant secrétaire du lieutenant-gouverneur, demeuré par ordre à son poste, se trouva profondément frappé. Les rayons galfaux produisirent en lui certaines conséquences dissolvantes. Complètement stérilisé, il ne voulut pas, l'honnête homme, épouser la femme qu'il aimait, et mourut de langueur peu après dans ce Gabon maudit qu'il n'avait pas quitté. La triste fin de ce bon fonctionnaire fut heureusement compensée par la fortune de son patron. M. Parmesif reçut en France la haute distinction que, loin de la métropole et plus près du soleil, il n'eût peut-être pas obtenu. Nommé officier de la Légion d'honneur, il fut promu de surcroît aux fonctions de gouverneur d'une belle colonie. Pour comble de félicité, les cheveux de sa femme repoussèrent quelque peu, et cette dame opulente put se recoiffer mutinement à la chien fou. Galfaud résidait aux États-Unis, chargé par le gouvernement américain d'organiser le plus grand laboratoire de radiophysique du monde. Winnie était Madame Galfaud. Barclay, nettement milliardaire, adorait maintenant son doux gendre. Les plantes moribondes reprirent peu à peu vigueur et beauté. Tous les êtres de la nature se réjouissaient de concert, libérés enfin de leur lourde terreur. Sauf les poissons, que le fléau n'avait jamais atteints et qui demeuraient en conséquence étrangers à l'allégresse universelle. L'âge du plomb était fini, bien fini. C'est alors que l'administration militaire put enfin mettre en distribution 1 million d'uniformes et de casques plombés.